Donc cette réserve est située donc juste au nord de Blois. Elle est constituée essentiellement de deux vallées, la vallée de la Cisse et la vallée de la Grand-Pierre qui se rejoignent au niveau de la réserve et qui est surtout connue pour ses belles pelouses au niveau de la Grande Mesle qu'on distingue sur la photo. Alors, l'inventaire des bryophytes nécessite qu'on regarde un petit peu les habitats qui sont présents dans la réserve. Donc ici, on a essentiellement, on va dire, distingué de trois grands types d'habitats qui vont être relativement intéressants à prospecter pour les bryophytes. Alors, on a en premier lieu les pelouses. Alors, la première photo en haut à gauche permet de voir qu'on a quand même une certaine variabilité. On a des roches affleurantes qui sont parsemées dans la réserve. On distingue aussi des zones un petit peu dénudées, surtout riches en annuels. On va trouver aussi énormément de bryophytes. Et enfin, des pelouses beaucoup plus denses à bromes et brachypodes. Alors aussi, un des intérêts de cette réserve, c'est on a vu qu'il y avait deux vallées, donc ce sont deux vallées relativement encaissées. Et sur les versants de ces vallées vont se développer des espèces de chênaies freinées riches en érables, et surtout avec un sous-bois important de buis. Alors les buis sont connus pour abriter énormément de bryophytes, au moins en quantité, on le voit sur la photo en haut à droite, avec notamment des draperies de Nekera complanata. Et enfin, un autre milieu intéressant en bas à droite sont les solets. Alors, il n'y en a pas énormément, des solets peu inondables, des fonds de vallon. On voit qu'il y a nettement moins de bryophytes visuellement sur l'écorce. Et ce qui est très intéressant aussi dans cette réserve, c'est que c'est un contexte essentiellement calcaire, mais avec des substrats qui peuvent être acides. Ce que Jacques Barda a appelé la terra fusca, et les blocs meulierisés. Alors, cette réserve a bénéficié, il y a déjà quelques temps, environ 25 ans, d'un premier inventaire, le 14 avril 1991, à la demande de la réserve, avec Jacques Barda, Odette Écardi, Pierre Boudier, qui était déjà présent, Pierre Plat et Marcel Rojon. Alors, lors de cette journée, il y a eu quand même 113 taxons de récoltés. Et ensuite, il y a eu d'autres journées, surtout avec des prospections de Jacques Barda et Pierre Boudier, notamment en 93, 96, 2008. Et là, on a un inventaire de 2008. Ces inventaires ont permis d'atteindre plus de 150 taxons, ce qui commence à être remarquable. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que Jacques Barda et Pierre ont commencé à faire le suivi de quelques espèces qu'ils estimaient comme les plus intéressantes de la réserve. Alors, nous, on a fait le terrain en 2017 sur 3 jours, le 2 mai, le 6 et 13 octobre. Alors, on voit la carte des localités au sein de la réserve. Alors on remarque quand même qu'on a beaucoup prospecté un peu la zone de confluence des deux vallons qu'on estimait, enfin en tout cas, être la plus intéressante, qui était aussi en partie des zones déjà beaucoup prospectées par Jacques Barda et Pierre, notamment la grande pelouse de la Grande Mesle, qui est en blanc ici, hein, très en blanc. Où on n'a pas tellement insisté finalement parce qu'on considérait que c'était connu, et on a un petit peu insisté sur la vallée de la Cisse, un peu sur les versants de la vallée de la Cisse qui était peu connu. Alors on a noté environ, alors on n'a pas encore tout déterminé, on n'a pas encore tous les résultats, mais on arrive à peu près à 120 taxons sur plus de 150 taxons connus. Donc c'est pas toujours évident d'atteindre l'exhaustivité, d'autant plus qu'on a été obligé de commencer un peu tard. En mai, il aurait fallu faire des inventaires, à la fin de l'hiver, pour avoir notamment les mousses annuelles. Donc voilà. Bon, alors, disons, au niveau des résultats, il y a des espèces remarquables qui n'ont pas été revues. Donc, vous avez par exemple Sausbia nigrella. Alors, peut-être parce que aussi on est arrivé un petit peu tard hein, pour la voir. Mais enfin, en tout cas, il y a une constatation qu'on peut faire, c'est que par rapport aux inventaires précédents, on a un ombrage accentué de certaines zones rocailleuses, donc qui peut poser certains problèmes. On verra un petit peu par la suite. Alors, il y a quand même une dizaine d'espèces nouvelles. Donc, alors, c'est pas une liste exhaustive, on a noté quelques espèces. Hein, je vous laisse les lire. Et ce qu'on a constaté, notamment grâce à la mémoire de Pierre, qu'il y avait quand même un vieillissement forestier dans les vallons, surtout sur les versants des vallons au niveau de ces fameux chênes effrénés à buis, où avec la présence notamment de bois pourrissant, donc ce qui était quelque chose qui n'était pas trop connu auparavant, et ce qui permet d'arriver à une certaine maturité de la forêt avec un certain enrichissement en bryophyte. Ici, on a l'exemple a priori d'un tronc de sycomore là, qui est tombé, et donc qui est relativement riche en mousse, avec ici Erzogiella seligeri, donc qui est nouveau pour la réserve, et qui est une mousse normalement habituellement des troncs de résineux pourrissants. Et puis aussi, ce qui nous a permis d'avoir pas mal d'espèces, c'est qu'on a prospecté des secteurs inédits. Alors ensuite, on va passer un peu un bilan stationnel sur cinq espèces à forte valeur patrimoniale. Alors elles sont à forte valeur patrimoniale parce qu'elles sont inscrites sur la liste rouge des bryophytes menacées de la région centre, donc liste établie par Pierre. Ce sont des espèces qui ont plutôt une répartition méridionale et qui sont proches ou au niveau de leur limite de répartition en région. Ce sont des espèces qui sont réellement rares en région, ainsi que dans la réserve de Grand-Pierre-Évitain. C'est aussi des espèces qui sont liées à un habitat rare et menacé, alors plutôt les affleurements rocailleux peu ombragés. Et enfin, c'est très important pour assurer un suivi et une gestion. Ce sont des espèces qui sont faciles à identifier sur le terrain. Alors, je vais passer la parole à Florian, donc qui va vous parler de deux espèces, et ensuite Pierre va traiter les trois dernières.
Oui, bah, tout d'abord la présentation de Rebouillia hemisphaerica. Donc, c'est une hépatique atale d'assez grande taille qu'on peut facilement repérer à l'état humide, bien évidemment à l'état sec, comme beaucoup d'espèces de bryophytes, elle se recroqueville et devient beaucoup plus difficile à détecter, ce qui a été le cas sur certains secteurs quand nous sommes revenus en octobre. Donc, ce qu'on peut constater, c'est une certaine disparité entre les observations anciennes et les observations récentes, où en fait on a donc deux observations antérieures qui n'ont pu être réobservées, et donc des stations inédites, notamment une en plein cœur de la Grand Mêle, et puis donc trois autres qui sont plus périphériques. Voilà. Donc on peut supposer que les localités anciennes ont disparu suite au boisement excessif qui voilà, elles ont été boisées. Voilà. Donc voici un petit peu un aperçu de l'habitat. C'est une espèce qui affectionne, donc c'est une espèce qui est terricole, mais qui aime bien se retrouver en bordure, dans une ambiance rocailleuse. Elle va donc tapisser les fentes au sein des rochers ou en bordure, comme on peut le voir. Donc deux espaces, hein, un espace artificiel en haut, qui est donc à la bordure de la voie ferrée, qui est donc une des stations périphériques de la réserve, puisqu'en fait la réserve est au-dessus de la voie ferrée, et la station de la Grande Mêle. Ensuite, Rickettsia gugietana, qui elle est beaucoup plus petite que la précédente. Il faut prospecter un petit peu à quatre pattes pour pouvoir espérer l'observer. Donc, c'est une espèce qui également avait fait l'objet de deux observations anciennes et qui a pu être réobservée uniquement sur une seule lors de nos inventaires de cette année. Donc voilà, c'est une espèce qui, malgré sa petite taille, est par contre assez caractéristique dans le genre Rixia, qui n'est pas forcément évident à déterminer, et qui là est quand même bien caractérisée par une couleur un petit peu brillante, et puis par des signes, des écailles blanchâtres très visibles sur le bord du tal. Et donc voici son écologie. Donc elle peut faire éventuellement des petites plaques dans des secteurs donc de terre mise à nu en bordure de rochers affleurants. Donc là c'est l'une des plus belles on va dire populations d'un seul bloc, mais bien évidemment elle peut être en individu plus ou moins isolé en fonction des secteurs mis à nu. Donc c'est une espèce qui, comme la précédente, nécessite un maintien des milieux ouverts. Maintenant, je vais laisser la parole à Pierre.
Alors, parmi les autres espèces remarquables, enfin une des plus remarquables d'ailleurs, c'est Cololeugenia rosettiana. C'est une espèce qu'on avait observée sur un seul site dans 93 et les années suivantes. On avait déjà noté sur le site qui se trouve en bas que l'espèce s'était déplacée en 10 ans, elle avait changé de rocher. Donc, ça nous avait un petit peu inquiété. Alors, on va regarder un peu son écologie. Alors, donc, c'est une toute petite plante, hein, extrêmement. Enfin, ça fait partie des plus petites hépatiques qu'on puisse avoir. Alors, initialement, on l'avait trouvée sur des rochers. Donc, c'est la photo en haut à gauche. Entre 93 et 2003, je crois, enfin, sur une dizaine d'années, elle avait changé de rocher, elle était passée d'un rocher à l'autre. On pensait que c'était un problème de lumière. Donc là, cette année, bah, tout a disparu. Elle n'est plus sur les rochers. Donc on s'était inquiété de dire, tiens, la station a disparu. Puis finalement, en prospectant d'autres secteurs, on l'a retrouvée, mais alors en situation écologique totalement différente. Attends. Je voulais revenir là. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est en prospectant. Alors en fait, c'est la vallée de la Cisse, là. C'est un secteur qui n'avait pas du tout été visité, là, ce secteur de la vallée de la Cisse. Donc, ce qui prouve qu'il faut aller vraiment partout pour faire un inventaire, hein, parce qu'autrement, on laisse de côté pas mal de choses. Donc, on l'a retrouvée en plusieurs points. Alors là, elle se trouve plus sur rochers, elle se trouve en épiphyte sur d'autres mousses. Hein. Donc, c'est une écologie classique de cette espèce. Donc, finalement, on se retrouve avec quatre nouvelles stations et avec une station disparue. Donc, je pense qu'il y a une certaine mobilité de l'espèce, hein, sur certaines dynamiques. Et puis, on a un problème quand même de gestion des problèmes de lumière. Il lui faut quand même un minimum de lumière. Donc, tout à l'heure, on a noté qu'il y avait des boisements anciens, c'était intéressant. Mais de notre côté, trop de boisements éliminent d'autres espèces. Voilà, il faut faire de la gestion raisonnée. Pour Ella arboris vitae, pareil, bon, c'est une espèce relativement thermophile qui demande aussi un petit peu de lumière. Alors, on avait deux stations initialement, il y en a une qui apparemment a disparu. Et donc, en continuant les prospections, ben, on a retrouvé quatre autres stations. Je sais pas si je passe. Là, voilà. Donc vous avez en haut la station, une des plus belles stations qui existait là sur la digue là, enfin, l'ancienne digue qui traverse le vallon. Là, on voit que ce système-là est en train de se boiser de plus en plus. Et donc la dite espèce, elle manque un peu de lumière. Après, on l'a retrouvée en petite population sur des rochers également, pareil, dans la Buxée. Alors là, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours un problème d'équilibre entre les apports de lumière et l'excès de boisement. Enfin bon, là, ça demande vraiment une réflexion très approfondie sur la manière de gérer un certain nombre de sites, parce qu'on va favoriser des espèces aux dépens d'autres. Hein. Alors, autre espèce emblématique, là, c'est Ligeria acutifolia. Alors là, on change complètement d'écologie. Il s'agit d'une espèce qui vit sur des parois calcaires. Bon, une très petite espèce, hein, extrêmement difficile à voir. Donc, il y avait un site. Quand on a les premières prospections, nous ont montré que l'espèce était abondante sur une paroi. Enfin, il y avait quoi, 1 mètre carré de l'espèce avec beaucoup de capsules. Et là, bon, on a retrouvé le rocher, on a retrouvé la paroi, mais là, la plante est complètement stérile. En fait, il semble, hein, alors a priori, hein, il semble qu'il n'y avait pas assez de lumière pour la dite plante. Donc, je ne sais pas s'il y a des... voilà, oui. Donc, en fait, c'est à l'extrémité de l'éperon de la grand-mêle, hein, il y a quelques parois. Et donc, c'est dans les fissures, dans les parois là, de la base de la... Donc, lors de la prospection, ben, on a fait un peu de lumière, mais bon, il faudrait faire attention de faire en sorte que les buis ne cachent pas toute la luminosité de ce secteur. Voilà, donc c'était intéressant pour moi qui ai commencé à connaître le site en 1993, donc de voir un peu l'évolution sur le long terme. Donc là où je suis un petit peu déçu, c'est qu'on avait fait un plan de gestion avec Jacques Barda qui n'a pratiquement pas été suivi. Mais bon, finalement, c'est instructif au niveau de la gestion du site, puisqu'on voit effectivement que le nombre d'interventions du boisement fait venir un certain nombre d'espèces. D'un autre côté, donc on a d'autres espèces qui subissent ce... Alors, d'autant que la Buxée est quand même un milieu où il y a très très peu de lumière qui pénètre, hein, quand les buis deviennent trop, trop denses. Voilà, donc il y a tout un travail à faire sur la gestion des... Disons que on fait de la gestion sur les milieux pâturage, etc., pour les phanérogames, etc. Mais je pense qu'il faut qu'on ait aussi une démarche identique pour un certain nombre de bryophytes. Hein. Et voilà, on vous invite à une découverte des mousses hépatiques de la réserve le samedi prochain, 14h à 17h. Il fera beau, il y aura du soleil, c'est prévu. Et le sol sera suffisamment humide pour qu'on ait des mousses complètement épanouies. Voilà, merci de votre écoute.